RMC, 15h-16h, 1h, 100% Bachelot, Roselyne Bachelot.
C'est l'heure de vous retrouver, la joie, le bonheur de vous retrouver tous et toutes, mais de retrouver aussi, surtout mon Rémi Barré.
Bonjour Roselyne, bonjour à tous.
Frais comme un gardon sorti de l'eau depuis 15 jours. Non mais mal, aujourd'hui t'as une tête à faire de la radio.
Ah bah c'est parfait.
C'est très bien.
Je vais m'auto-exclure si ça continue.
Et oui, alors je vais vous raconter pourquoi en cinquième je me suis fait virer de mon collège. Et oui, j'étais en état de rébellion, d'indiscipline, et le motif de mon exclusion, tenez-vous bien, alors c'était pas pour 8 jours, c'était pour 15 jours, maintenant on peut pas faire plus de 8 jours.
15 jours, mais ça devait être pas mal déjà.
C'était pas mal, oui, eh bien j'ai été exclu pour esprit voltairien. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne raison? Moi je trouve que c'est un titre de gloire, un esprit voltairien, et c'est celui-là que je veux, que je revendique au micro de RMC. Alors bon, oui, c'est vrai, les chiffres sont là, 7 à 20% des collégiens se font renvoyer de leur établissement pour une durée de 1 à 8 jours. Ça devait être une mesure exceptionnelle et ça devient trop souvent la norme. Alors, bien entendu, il y a des faits graves qui nécessitent l'exclusion. On pense à des violences sur les individus, les maîtres ou d'autres élèves, des trafics, si on deal de la drogue au collège. Évidemment, c'est une bonne raison de se faire exclure, peut-être même définitivement. Mais on remarque aussi des raisons à ces sanctions, des raisons plus banales, plus ordinaires, et c'est rarement une solution. Alors, vous allez nous raconter, peut-être que vous-même, vous avez été l'objet d'une mesure d'exclusion, vous allez nous dire pourquoi, vous allez nous dire aussi ce que vous pensez de ça, puis surtout, des solutions. Qu'est-ce qu'on fait devant des cas extrêmes? Est-ce que pour vous, l'exclusion temporaire ou définitive, c'est une bonne solution, ou est-ce qu'il y a des solutions alternatives? Je vous attends évidemment au 32-16.
Et vous n'oubliez pas, 15h45, c'est vous qui faites l'actu, vous nous dites ce qui vous touche, ce qui vous marque, et vous nous appelez au 32-16.
La devise de notre établissement, respect, travail et obéissance sont les clés de l'excellence.
Chaque année, ils sont près de 3000 à être exclus définitivement de leur école.
Motif, je vis dans ma bulle, j'ai un sourire narquois.
Il faut des faits graves parce qu'être exclu, c'est vraiment la sanction la plus grave qu'on peut encourir.
Ces règles ont été établies dans le but de vous permettre de réussir au certificat d'études.
Il y a un certain nombre d'exclusions qui ne sont absolument pas justifiées. C'est l'école qui fait un tri, par exemple. Il y a des écoles qui excluent parce que des jeunes redoublent.
On aimerait profiter de la récréation pour réviser un peu.
Ah oui, vraiment? Eh ben vous voyez, l'autorité, ça sert à quelque chose.
Il est 15h07 sur RMC. Je rappelle, vous nous appelez au 32-16, mais vous pouvez aussi nous appeler sur Twitter, enfin, nous parler, nous poser vos questions, vos observations sur Twitter, Bachelot_RMC, et par mail, vous pouvez m'écrire sur rmc.fr. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Jean-Rémy Girard, un habitué de nos émissions sur l'éducation, qui est vice-président du SNALC, le syndicat national des lycées et collèges, et qui est professeur de français dans un lycée à Asnières. Alors, il y a un vrai débat parce que toute cette échelle des sanctions qui va de l'avertissement, le blâme, la responsabilisation, vous nous expliquerez sans doute ce que c'est, puis ensuite les mesures d'exclusion de la classe, du cours, de l'établissement, tout ça a été codifié par un certain nombre de textes. Comment se fait-il, Jean-Rémy Girard, qu'avec toute cette réglementation, on observe des dérives? C'est quand même pas normal que certaines années, il y ait jusqu'à 20% des collégiens qui soient frappés par une mesure d'exclusion temporaire.
Alors non, ça c'est donc une étude qui a été menée par la FCPE, qui est la principale fédération de parents d'élèves, qui est très intéressante sur le plan quantitatif, dans le sens où on voit que c'est quand même un phénomène important, les sanctions d'exclusion. Ce que ça ne montre pas, en revanche, et c'est peut-être le défaut de la chose, c'est le côté un peu brut des chiffres, c'est comment on en est arrivé là. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un passé, est-ce qu'il y a un passif de l'élève? Parce que souvent, la mesure d'exclusion temporaire c'est pas la première qui arrive. C'est-à-dire que pour en arriver là, dans la plupart des établissements scolaires,
on a utilisé tout ce qu'il y avait avant.
C'est-à-dire qu'on a utilisé déjà ce qu'on appelle les punitions, qui peuvent être données par les professeurs, les surveillants. Voilà, donc les heures de colle, hein, par
exemple.
Oui, c'est
ça, oui. Oui, il faut bien expliquer la différence entre punition et sanction.
On va expliquer. La punition, c'est ce qui peut être donné par le professeur, le surveillant, le CPE. La sanction, c'est une décision qui ne peut être prise que par le chef d'établissement ou le conseil de discipline dans les cas les plus graves. Voilà. Donc, j'allais dire, dans ces cas-là, souvent, on est déjà arrivé à des heures de colle, souvent un contrat avec l'élève, c'est des choses qui se pratiquent beaucoup aujourd'hui, et un avertissement, des choses comme ça. Et à un moment, en fait, tout ça n'a pas fonctionné et, en fait, on grimpe dans la hiérarchie.
Alors,
des sanctions.
Jean-Rémy Girard, je comprends que ce que vous nous dites, c'est pas que ce ne sont pas les sanctions qui augmentent indûment, ce sont les actes d'incivilité et de violence qui augmentent à l'école. C'est ça que vous nous dites au collège.
Mais ça, c'est reconnu dans les études internationales. Dans PISA, on a des chiffres très précis sur le climat scolaire. Et effectivement, la France est extrêmement mal positionnée sur ce sujet-là. On est dans un pays où on a beaucoup, beaucoup de mal dans nos établissements scolaires à avoir le silence en classe, à avoir des élèves qui travaillent. J'allais dire, ça,
comment,
c'est reconnu.
Comment vous expliquez ça, Jean-Rémy Girard?
Alors là,
c'est un sacré constat d'échec.
Je suis pas sûr qu'on ait suffisamment de temps, mais on va essayer de donner les choses les plus simples.
Quelques mots, parce que, effectivement.
En fait, on se retrouve à la fois avec des difficultés scolaires, des lacunes qui remontent parfois à très loin et qui ne font en fait que s'aggraver au collège et qui vont se transformer souvent en indiscipline chez un certain nombre d'élèves. J'allais dire, ça paraît assez logique. Un enfant qui est là 26 heures par semaine et qui ne comprend pas ce qui se passe et qui n'est pas en mesure de suivre ce qui se passe, on peut comprendre qu'à un moment, il bavarde, il débloque, etc. Et il se retrouve à avoir un comportement qui n'est pas
gérable. Oui, mais ça existe dans tous les pays, Jean-Rémy.
Moins. En fait, ça existe moins dans d'autres pays qu'en France. Alors là, je ne suis pas un sociologue, je ne vais pas vous faire quelque chose sur la place des parents, sur tout ça. Je pense qu'il y a une multitude de facteurs et c'est en fait ça. L'étude est intéressante sur le plan quantitatif.
On aura un sociologue tout à l'heure.
Super. Mais on a du mal sur le plan qualitatif. Moi qui ai pu, quand j'ai enseigné en collège pendant 10 ans, voir des décisions d'exclusion temporaire, j'allais dire, il n'y en a pas forcément deux qui se ressemblent. Ce sont des profils d'élèves qu'on connaît bien. Et à un moment, il y a le recours parce que, j'allais dire, ça n'a pas fonctionné. Et il y a aussi la valeur d'exemplarité qui peut être donnée à la chose.
Pour dire aux autres, tenez-vous à carreau.
Pour dire aux autres, voilà ce qui se passe. Parce qu'à un moment, si on laisse s'installer un climat d'impunité dans un établissement scolaire, là, c'est vraiment le début de la fin.
Alors, qui nous avons au 32-16, Rémi?
Laurent nous appelle au 32-16 et il est dans le Lot-et-Garonne et il est enseignant.
Bonjour, Laurent.
Bonjour, Madame Bachelot.
Alors.
Ça fait plusieurs fois que je vous ai au téléphone.
Ben on est heureux,
voilà,
et je suis heureux de vous retrouver, Laurent. Alors,
oui.
Professeur, vous êtes professeur en collège,
de
Laurent?
De mathématiques, oui.
Professeur de mathématiques.
Oui.
Ça, c'est une denrée rare et précieuse que le professeur de mathématiques.
Il faut nous préserver, une espèce en voie de disparition.
Vous êtes une espèce en voie de disparition. Alors, dites-moi, Laurent, vous utilisez l'exclusion, vous, massivement?
Alors, écoutez-moi, comme disait mon cher collègue, les professeurs n'ont pas le pouvoir de sanction, ils n'ont que le pouvoir de punition. On a des pouvoirs très limités. Si un jour on nous redonne du pouvoir, peut-être que ça ira mieux aussi. Il n'y a que les chefs d'établissement qui peuvent sanctionner, c'est-à-dire exclure temporairement moins de 8 jours, ou convoquer un conseil de discipline, il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. C'est-à-dire que vous avez beau avoir des professeurs qui veulent un conseil de discipline, tant que le chef d'établissement n'a pas décidé que, pour des raisons X ou Y, et qui parfois tiennent à leur carrière personnelle, parce que moins ils ont de conseils de discipline dans leurs établissements, mieux ils se portent et mieux ça va pour leur carrière, eh bien, vous n'aurez jamais de conseils de discipline, à moins de motiver une lettre, faire une lettre de motivation, et encore. Bon. Donc ça, c'est pour les conseils de discipline. Les conseils de discipline, c'est l'émanation des conseils d'administration. Donc vous avez la même composition au niveau conseil de discipline. Donc vous avez un tiers de parents.
J'ai été membre de conseil d'administration d'établissement et j'étais donc membre de conseil de discipline.
Alors, je vous explique parce que tout s'explique aussi. Vous avez un tiers de parents, vous avez un tiers de professeurs, en gros, des élèves et des membres du personnel, on va dire, ados, etc. Voilà. Donc vous avez les élèves, il y a deux délégués élèves en général, ou deux ou trois, qui ont autant de pouvoir que les deux ou trois professeurs ou quatre qui sont là. C'est-à-dire qu'ils ont droit de vote, et ils peuvent annuler le vote des professeurs, on les met au même niveau déjà, c'est-à-dire que l'avis d'un élève, là, le vote d'un élève concernant les conseils de discipline, ce qui est quand même assez fort, hein, est mis sur le même plan d'égalité qu'un professeur.
Alors, non, c'est la démocratie participative, ouais, non, cher
là,
Laurent.
Il sanctionne, attendez, mais là, il sanctionne, mais ça, c'est pas une histoire de participatif. Là, il sanctionne, en fait, un élève. Au même titre que vous. Mais vous, ça vous mettez le professeur sur le même pied d'égalité que l'élève. C'est, moi, enfin, bon, ça m'a toujours stupéfait. Ensuite, les décisions. Si jamais il y a exclusion définitive, il ne faut pas croire que ce soit la sanction suprême. Vous excluez un élève d'un établissement. Il va dans un autre, c'est obligatoire. Donc, en fait, on se refile les patates chaudes. On exclut un élève, on s'en reçoit d'un autre établissement. C'est un circuit fermé. Et c'est là qu'il y a le problème du système. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre ses élèves dans des établissements à discipline renforcée, imaginons qu'il y en ait un par académie, ce ne serait pas le bout du monde, hein. Eh bien là, ça, on traiterait les problèmes. Tandis que là, oui, on ne fait que les déplacer. On ne fait que déplacer les problèmes, et c'est tout. On
non, mais Laurent, excusez-moi, vous parlez de questions différentes, et je vais en parler aussi, je vais faire intervenir oui. Jean-Rémy. C'est qu'il y a effectivement des cas extrêmement graves, des violences sur les personnes, des dégradations oui, massives, tentatives d'incendie, etc. Des accumulations de faits. Alors là, on se oui. trouve devant des problèmes très spécifiques, avec des exclusions définitives. Oui. Moi, je oui. parle du courant, c'est-à-dire que on a l'exclusion de moins de 8 jours qui est oui. considérée presque comme une respiration pour le prof. Moi, ça me remonte du terrain, mais, ça.
Écoutez, nous, qu'est-ce qu'on a à notre disposition ? Mis à part les punitions qui ne sont souvent pas faites, que les parents, en fait, ne veulent pas, les enfants, souvent, on leur donne des punitions, vous retrouvez avec un mot, disant « Ah, mon fils, ma fille, à ce moment-là, il faisait pas l'idiot, pourquoi vous lui mettez cette punition ?» Donc,
ah
il conteste les punitions.
On en a parlé ici.
Voilà. il conteste les mots dans les carnets. On est contesté sans arrêt. Donc, on a un pouvoir qui est très limité. Les heures de retenue, vous en mettez, il y a des élèves qui collectionnent les heures de retenue, et après, qu'est-ce qui se passe ? Rien de spécial. Voilà, c'est tout. Donc, nous, on est démunis au point de vue punition, on va pas dire sanction, puisque c'est le mot-clé qu'il faut pas employer. Au point de vue punition, nous, les professeurs, on est très limités, les élèves le savent. Et ceux qui ont du pouvoir, c'est les chefs d'établissement. Ils veulent pas toujours...
Laurent, je fais réagir à votre collègue Jean-Rémy, le vice-président du SNALC, du Syndicat National des Lycées et Collèges. Jean-Rémy, il y a quand même deux choses très différentes. Il y a cette espèce de gestion des difficultés au fil de l'eau sur des élèves dont on a le sentiment que ça ne relève pas quand même de l'exclusion totale de l'établissement. Et puis, alors, des cas très graves évoqués par Laurent, on peut pas parler de la même façon.
Dans les cas les plus graves. J'allais dire quand un chef d'établissement convoque un conseil de discipline, on connaît déjà l'issue avant le vote. Hein, la plupart du temps, un chef d'établissement convoque très rarement, ça peut arriver, il y a des cas partout.
Il
convoque très rarement un conseil de discipline sans savoir en gros ce qui va s'y passer. Parce que c'est extrêmement lourd comme procédure, hein, un conseil de discipline.
Alors, on n'a pas l'air d'accord avec vous,
il y a toujours des contre-exemples. On en trouve toujours.
Non, mais c'est pas des contre-exemples. En ce moment, arrête pas d'en faire en ce moment, alors que le rectorat peste contre nous, notre établissement, parce que soi-disant, on est des recordmen à la matière, mais on fait avec ce qu'on a. Hein. C'est comme si vous disiez à un tribunal qu'il y a trop de procès, mais c'est pas la faute du tribunal qu'il y a des procès.
Non, mais je sais bien, Laurent. Je suis parfaitement au courant de la situation et je sais que les professeurs sont dans des situations extrêmement difficile non, dans les établissements.
Laurent, une minute, laissez Jean-Rémy Girard répondre.
Là, ce que Laurent dit, et il a parfaitement raison, c'est qu'effectivement, on se retrouve extrêmement démunis face à certains élèves. Les heures de colle, elles ne sont pas forcément faites. Quand elles sont faites, elles ne sont pas forcément bien faites. Et on est de plus en plus dans des situations où les professeurs sont obligés de prendre les élèves qui sont en colle dans leur cours pour leur faire faire leur rôle de colle. Parce que si on les envoie en permanence, dans la salle de permanence, dans un certain nombre de cas, on sait que ce ne sera pas fait parce que les surveillants ne peuvent pas non plus arriver à tout gérer. C'est extrêmement compliqué. Et donc, on en arrive par un phénomène de gradation à des professeurs qui sont de plus en plus désemparés, qui se retrouvent à faire des rapports d'incidents, et ça peut se transformer en exclusion temporaire de l'établissement.
Ça amène peut-être une réponse trop longue, mais vous parlez d'enseignants démunis, mais est-ce que l'exclusion, c'est une solution?
L'exclusion, comme Roselyne disait, il y a ce côté de respiration, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a des élèves, au quotidien, c'est tout à fait impossible de les gérer. Ah. En fait, c'est tout à fait impossible de les gérer.
L'exclusion, c'est quoi? C'est 8 jours ou 15 jours?
C'est pas 15 jours,
ça peut être que 8 jours.
Ça peut être 8 jours au maximum.
Voilà, il y a toujours des modifications régulières dans ces textes-là.
Ça date de 2010, je crois, la limitation à 8 jours.
C'est toujours le problème. C'est-à-dire que sur le moment, ça va fonctionner dans le sens où vous n'avez pas l'élève en classe, donc effectivement ça marche. Dans le sens où il n'est pas là pour vous embêter comme il vous embêterait le reste du temps. Mais on est complètement d'accord que sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Parce que l'élève décroche de plus en plus, et un élève qui reste chez lui, de toute manière, ça ne sert strictement à rien.
Dans les textes réglementaires de l'éducation nationale, il est bien précisé que l'élève exclu qui reste chez lui doit avoir la continuité de ses cours. Oui. Or, en fait, cette continuité, elle n'est pas assurée.
Elle n'est pas assurée dans le sens où les professeurs, la plupart du temps, donnent des choses. Hein. Moi, quand il y avait ce type de choses, je donnais toujours du travail à faire, des leçons, des choses comme ça. Mais enfin, on n'a personne à la maison pour vérifier que l'élève qui a déjà du mal à le faire en cas dans un établissement scolaire va le faire tout seul chez lui. Donc on sait bien que c'est une forme qui peut mener à un décrochage scolaire, notamment pour des élèves absentéistes que l'on va sanctionné par une exclusion, ce qui paraît absolument absurde.
On remercie Laurent.
Exactement.
Et très bonne intervention. Je fais gagner un t-shirt à Laurent. Hein.
Ah, je vais gagner votre photo dessus.
Non, il n'y aura pas ma photo dessus. Mais bon, c'est un très beau t-shirt, Laurent.
En
souvenir de votre fidélité à notre émission.
Et alors, écoutez, si vous rencontrez un candidat à l'élection présidentielle, posez-lui la question de savoir si c'est comment fonctionne un conseil de discipline. À mon avis, il ne sait pas.
Ça peut être une bonne question, ça.
Bonne question. Merci Laurent. Et on a
Adrien nous appelle au 3216 et lui il est en Isère.
Bonjour Adrien.
Bonjour Roselyne.
Alors Adrien, vous avez été viré du collège, vous Adrien?
Tout à fait, tout à fait.
Et aujourd'hui vous n'êtes pas enseignant. Ça va.
Non, je suis pas enseignant, mais j'ai failli l'être, donc il y a pas de souci. Moi, dans le domaine sportif. Mais pour revenir à ce que disait Laurent à l'instant, je le rejoins sur une chose où je suis complètement d'accord avec lui, sur le fait des punitions ou sanctions, où en fait, je pense qu'il y a un travail déjà au niveau des parents à faire, pour la simple et bonne raison que moi, à chaque fois que je rentrais d'école et que j'avais une punition, que ce soit 100 lignes ou une heure de retenue, j'avais juste mon père qui me doublait toutes mes punitions. Il me donnait 100 lignes de plus en me disant tiens, ça c'est pour moi. Ou si j'avais une heure de retenue, il faisait un mot dans le carnet en disant rajoutez-en une, c'est juste pour moi. C'est cadeau.
D'accord. Adrien.
Ah mais c'est le problème, c'est que maintenant aujourd'hui on fait des enfants pour pas les éduquer. Donc déjà on part avec un principe qui est un petit peu compliqué, c'est on fait confiance à l'école pour que l'école éduque nos enfants, alors que l'école est là pour instruire et non éduquer. Mais bon, ça après, ça reste encore un autre débat, et à mon avis, voilà. Mais maintenant, pourquoi mon exclusion, alors c'était pas un esprit voltairien, mais presque. En gros, j'ai ricané devant ma prof de français en lui faisant comprendre que on n'allait pas encore faire les compléments circonstanciels, puisque en cinquième, j'osais penser qu'on allait faire autre chose qu'un programme de CE1. Parce qu'en fait, j'étais un peu un élève, pas dire surdoué, mais j'étais un peu au-dessus de la moyenne, et je m'ennuyais en classe. Et faire encore des leçons qu'on a vues et revues et encore revues, et je lui ai fait comprendre que c'était
pénible. Ras-le-bol, quoi. Et pour ça, vous avez été viré combien de temps, Adrien?
J'ai été viré 3 jours.
Oh là 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 là! C'est une sadique, votre prof!
C'était une remplaçante, donc il fallait asseoir son autorité en disant voilà. En fait, en gros, j'ai répondu à toutes les questions qu'elle m'a dit parce qu'elle a voulu me piéger pour voir si j'étais si intelligent que ça. J'ai répondu à toutes les questions et elle m'a dit ça c'est bien la grammaire, on va dire Adrienne hein, pour pas donner. C'est un peu, elle a transformé mon nom de famille en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai juste eu le malheur de dire pourquoi elle m'insulte cette bouffonne. Et effectivement, elle l'a pas entendu, elle l'a pas entendu, mais une élève a répété, et en le répétant, ça m'a valu 3 jours. Donc 3 jours. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne sert strictement à rien d'exclure un enfant, parce que moi, ça m'a juste fait 3 jours de week-end de plus. C'est tout ce que ça m'a apporté, sachant qu'on n'a pas de devoir, on n'a rien, on est exclu, et que voilà. Et qu'en plus de ça, quand on revient, et qu'on est enfant, on revient d'une exclusion, la seule chose que ça fait, c'est qu'on passe pour un héros aux yeux de la classe.
C'est intéressant ce qu'il nous dit Adrien. Alors il y a quand même, reconnaissez-le Jean-Rémy, il y a quand même quelquefois ça déconne sur les exclusions.
Ah mais bien sûr, comme partout, vous savez, hein, il y a 800 000 enseignants en France, il y a je sais plus combien d'établissements scolaires, il y a plus de 4 000 collèges. Oui. Effectivement, on va toujours trouver des situations dans lesquelles ça s'est pas bien passé, ça a déconné, c'est normal. J'allais dire c'est malheureusement normal, ça va arriver. Mais J'allais dire aujourd'hui ce qui s'est passé.
Oui.
Non, non, ce qui s'est passé pour Adrien qui avait envie d'aller plus vite sur les compléments circonstanciels. Je pense que la plupart des professeurs aujourd'hui seraient tout à fait ravis de l'avoir l'avoir dans leur cours.
Moi, le premier.
Mais voilà. Mais ce que Adrien dit, il a parfaitement raison, hein, c'est le fait que exclure un élève sans lui donner de travail, déjà, ça n'a aucun sens, ça, on est entièrement d'accord. Et deuxièmement, ça peut être porté comme une sorte de badge d'honneur, c'est-à-dire,
c'est
ah oui,
ça.
J'ai été exclu. Et donc, faut trouver des alternatives à ça.
Je vous sollicite, Roselyne Bachot, parce que j'ai pas envie d'être exclu, donc je suis poli, donner la parole à Maxence, qui nous appelle au 32-16.
Maxence, qui est un... Il tient à carreau le Rémi,
attention. Maxence, qui est un serial exclu.
Oh, bonjour Maxence.
Bonjour tout le monde.
Alors, vous êtes un serial exclu, ça veut dire quoi ça Maxence?
Exactement, moi je n'ai pas été exclu une seule fois, mais cinq fois, j'ai fait quatre fois différents.
Ah, vous étiez en exclusion définitive à chaque fois?
Je les ai toutes faites.
Mais qu'est-ce que vous aviez fait, mis le feu au collège?
Joli palmarès, ça.
Non, je n'ai jamais rencontré quelqu'un encore qui m'a battu. Mais en fait, bon, c'était pas un exploit, hein, mais j'étais un petit con au collège.
Ouais.
J'étais un petit peu insolent. Je venais pour jouer au foot, pour draguer mes copines.
Ah, c'est au niveau de la formation, c'est pas terrible. Enfin, ça peut servir.
Exactement.
Aussi.
Exactement. Mais donc, j'ai été viré et finalement, j'ai fait un collège à la fin, à l'internat, dans le Gers. J'y repense encore, c'est les routes pour amener là-bas. Et ça m'a complètement changé en fin de compte, parce que l'autorité était beaucoup plus présente.
Ah.
Et voilà.
Mais c'était un internat spécialisé à encadrement renforcé, c'était un établissement ordinaire?
Non, pas tellement. En fait, c'était un collège privé.
Ah.
Mais voilà, l'autorité était beaucoup plus présente. On était à point. Voilà, ça m'est arrivé de rester en permanent jusqu'à 2-3 heures du matin. Lorsque le comportement n'était pas bien, et ça m'a vraiment changé.
Vous étiez en colle en permanence jusqu'à 3h du matin, mais dites donc, c'est affreux.
Ça nous est arrivé, ouais, c'est affreux quand on le vit. Mais aujourd'hui, moi, je remercie mes parents de m'avoir envoyé là-bas finalement, parce qu'ils ont fait de moi la personne.
Maxence, ça relève de la maltraitance. Hein.
Il faut l'accepter.
Enfin, laissez un gamin. Vous aviez quel âge? Vous aviez 13-14 ans.
Ouais, 14-15 ans, ouais.
Non mais attendez, mais c'est la baleine bleue là, attention.
Après avoir fait plusieurs collèges, vous savez, il n'y a plus trop de solutions. Hein. On a fait le tour des collèges du secteur, que l'autorité n'est pas présente, parce qu'aujourd'hui l'autorité en France, elle n'est pas présente, hein, soit pour tout, et là on parle de l'école.
Oui mais attendez, Maxence, je me retourne vers Jean-Rémy Girard, faut quand même pas confondre autorité et autoritarisme là.
Mais en fait, on en arrive. Enfin, là, on est dans un établissement privé hein, qui devait mettre en place ses propres règles. Et effectivement, aujourd'hui, un enfant jusqu'à 2-3 heures du matin, je pense que les parents peuvent attaquer en justice assez facilement.
Ah oui, ça relève.
Hein. Mais ce qui me paraît intéressant dans le témoignage, c'est que ça montre bien ce côté où on se refile la patate chaude, c'est-à-dire que d'un collège à l'autre, on va avoir des élèves qui sont extrêmement difficiles en termes de comportement. On ne va pas savoir les gérer. J'allais dire, le collège d'à côté sera pas mieux les gérer que nous. Et donc, on fait tourner des élèves sans leur offrir une solution concrète, parce que probablement le système scolaire tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, ne peut pas fonctionner pour eux. En fait.
Maxence, vous êtes allé jusqu'au baccalauréat ensuite avec votre système si j'ose dire, de super sanctions. Et ça y est, vous êtes finalement content.
Alors aujourd'hui, j'ai 20 ans, je travaille en alternance, je suis commercial, je suis sur la route. J'ai passé un an à l'étranger aux États-Unis, je n'ai jamais été reviré. J'ai super bien réussi ma vie, et grâce à justement cette autorité, je pense.
Pour vous récompenser, vous aurez un t-shirt, hein, je vous envoie ça.
C'est super gentil. Mais en tout cas, voilà, il faut juste de la volonté et ne pas avoir peur, je pense, des sanctions qui, pour certains élèves, je ne parle pas en généralité, mais ceux qui sont un petit peu perturbés et voilà, qui sont un petit peu des petits cons, hein, au collège, ont besoin de cette autorité.
Bon,
remonter la pente.
Merci Maxence d'avoir revendiqué l'autorité et d'avoir dit tout le bien que ça vous avait fait. Puis on remercie aussi Adrien qui a fait un beau parcours lui aussi. on continue parce que.
Enfin, exactement, on a comme on dit souvent là. On parle d'école, dresser le tableau. Évidemment, on a vu ce qu'il en était.
Ah, quel jeu de mots.
Mais on a vu ce qu'il en était. Bon, en tout cas, ce qu'on ne peut pas nier, c'est qu'il y a des vrai souci, vous l'avez dit tout à l'heure, avec les classements PISA de discipline dans les établissements scolaires en France.
Donc c'est indéniable.
On a vu que l'exclusion, même temporaire, elle, c'est certainement pas la solution idéale. Donc on va essayer de voir ce qu'on pourrait faire, et on semble voir ce qu'on pourrait faire pour améliorer tout ça. Vous nous appelez au 3216, évidemment,
puis,
pour vos pistes, vos solutions, vos idées. Et dans 20 minutes, maintenant, ça passe vite, dans 20 minutes, c'est vous qui faites l'actu, vous nous dites ce qui vous touche, ce qui vous marque, et vous nous appelez au même numéro, le 3216.
RMC.
Alors, qu'est-ce que vous avez au programme maintenant?
Les troisièmes.
Qu'est-ce qui nous réserve, cela?
Alors donnez-moi ce ballon. Le premier qui ramène encore un ballon à l'école, il aura affaire à moi.
15h-16h.
Vous avez un petit peu répondu à Mlle Biorel ce matin. Et à Mademoiselle André.
C'est parce qu'elle m'a dit, si Mlle Biorel est intervenue, levez-vous. C'est qu'elle a des bonnes raisons.
Opinion.
Toutes nos études sont tenues par des surveillants remarquables, absolument remarquables.
Solution.
Allez hop.
En plus du zéro que veut mettre le professeur, je vais lui coller 8 jours d'excuses.
Au revoir.
100% Bachelot sur RMC.
Et oui, 20% de nos collégiens certaines années sont exclus définitivement ou temporairement de leur collège. Alors, mesure qui frappe spécialement les enfants des classes défavorisées qui ajoutent donc l'échec à l'échec. Quelles sont les bonnes solutions pour éviter l'exclusion ou pour l'accompagner quand celle-ci est inévitable? On a des spécificités françaises. On continue à regarder tout cela avec Jean-Rémy Girard, vice-président du SNALC. Mais nous avons avec nous Mathias Millet, professeur de sociologie. Bonjour Mathias Millet.
Bonjour.
Alors, on a parlé d'une spécificité française qui fait que, à la fois, les incivilités, les violences sévissent dans nos établissements, chez nos jeunes, beaucoup plus que dans les autres pays européens, et que les exclusions, cette procédure d'échec qu'est l'exclusion, y sévit aussi beaucoup plus. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays, Mathias Millet, qui fait que nous en sommes là?
Alors, c'est une question qui est assez compliquée, hein, parce que ça implique, ça a été dit, beaucoup de choses. Je pense que une des façons de resituer le problème dans un cadre plus large, c'est de rappeler l'existence d'inégalités dans notre école française, d'inégalités qui sont extrêmement importantes et qui sont, même si on en juge les enquêtes qui sont faites par PISA, les plus marqués en France, puisque c'est en France, par exemple, que vos chances de réussite ou d'échec à l'école sont les plus liées à l'origine sociale. Mmh. Et donc, par exemple, si on recadre les choses dans cette perspective-là, on voit bien qu'on a une école qui est en fait aussi prise dans des contradictions et qui met beaucoup de monde dans les contradictions, y compris les profs, qui d'un côté souhaitent accueillir tous les élèves, quels qu'ils soient, et c'est très bien, mais qui d'un autre côté ne sait pas quoi faire de certains élèves qui, pour des raisons socioculturelles différentes, sont inégalement prêts finalement à suivre des apprentissages dans l'école. Ce qu'on oublie souvent, c'est que apprendre à l'école, c'est quelque chose de très particulier. Les apprentissages scolaires, c'est pas tous les apprentissages, c'est apprendre d'une manière très particulière, et les élèves sont très inégalement préparés à rentrer dans ces formes d'apprentissage-là, et l'école est inégalement préparée elle aussi, par les moyens qu'on lui donne, etc., à permettre à tous les élèves de rentrer dans ces formes d'apprentissage-là. Ça crée des tensions, ça crée des situations d'échec, ça crée des situations de disqualification, d'opposition entre les enseignants et les élèves, qui peuvent dégénérer.
Alors, d'accord, on comprend qu'il y a des spécificités, on en parle souvent ici, dans 100% Bachelot, mais Mathias Millet, vous qui êtes professeur de sociologie, vous nous dites qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pas ajouter l'échec à l'échec, puisque vous parlez de cette école inégalitaire, parce que l'exclusion, ça va avoir un résultat tout de suite, puisque ça frappe surtout les enfants qui sont des classes défavorisées. Si on les exclut 15 jours de l'école, on va en faire des vrais décrocheurs, hein.
Alors l'exclusion, c'est le terme d'un processus, c'est la solution du dernier recours. Ça n'apporte pas de solution sur le fond du problème. Et vous avez raison, c'est vrai que les études montrent que on parle beaucoup de déscolarisation. Les travaux qui ont été faits sur les questions de déscolarisation montrent que l'école est largement responsable de processus de déscolarisation, par exemple par la multiplication des exclusions. Alors ça soulève un autre point qui me semble important, c'est que on pense souvent les problèmes de discipline en soi-même. Et je crois qu'au début de l'émission, ça a été dit, c'est important. Il faut pas opposer les apprentissages et les problèmes de comportement. C'est pas souvent pas seulement des problèmes de comportement ou de mauvaise volonté, etc. Alors il y a des élèves qui sont rétifs, qui s'opposent, mais c'est souvent au terme d'un processus dans lequel de la désillusion était produite, de la disqualification était produite. Et notamment pour des élèves qui ont accumulé des sanctions négatives dans leurs apprentissages, qui ont l'impression de pas s'en sortir, qui ont l'impression que des situations d'exposition scolaire risquent de tourner à l'humiliation, et qui vont pouvoir ne pas suivre en classe et par exemple s'ennuyer et donc chercher à se faire exclure. Non,
Mathias Mieux, vous nous faites un tableau absolument décourageant, Rémi.
Et on vient d'évoquer avec Mathias Mieux, je m'adresse à Jean-Rémi Girard qui est avec nous, je rappelle que vous êtes le vice-président du syndicat national des lycées et des collèges. On vient d'évoquer le risque avec une exclusion, même de 8 jours temporaire.
Mais je veux des solutions, d'une Rémi, moi.
Justement, on arrive. Attention, parce que moi je peux t'exclure aussi. Mais du risque, voilà, on exclut 8 jours d'une rupture. C'est-à-dire que ça peut faire l'effet inverse, l'élève ne revient plus ou ne veut plus revenir. Mais vous, vous militez, solution Roselyne, pour l'exclusion internée. Alors, ça veut dire quoi?
Une fois encore, souvent quand on arrive à l'exclusion, j'allais dire, c'est déjà trop tard, oui. En fait. C'est déjà trop tard. C'est plus, ça montre plus que l'élève, en fait, est déjà quelque part déscolarisé, y compris à l'intérieur de l'établissement. J'allais dire, un élève a pas besoin d'être exclu.
Pour être déscolarisé,
pour être en décrochage. On peut parfaitement être en décrochage scolaire au fond de la classe, ou au premier rang, d'ailleurs. Ouais. C'est tout à fait possible. Ce qui peut se pratiquer, moi je l'ai vu faire, mais ça demande des moyens humains et des personnes qui savent quoi faire avec les élèves. C'est ce qu'on appelle des exclusions internées. Alors la formule est parfaitement oxymorique, paradoxale. C'est-à-dire que on va avoir un processus d'exclusion de l'élève, mais son exclusion va avoir lieu à l'intérieur de l'établissement, où il va être pris en charge par
une
ou plusieurs adultes.
Spécialisé,
c'est beaucoup dire, malheureusement.
Il est exclu de la classe, mais voilà.
Où on va, pour le coup, lui faire le travail, lui faire faire des travaux d'intérêt général qui peuvent être des choses tout à fait intéressantes et responsabilisantes pour l'élève, c'est-à-dire que on va pas le laisser tout seul chez lui à jouer à la console. Voilà, on va effectivement le prendre en charge dans l'établissement. Mais pour le prendre en charge dans l'établissement, il faut des adultes.
C'est ça.
Et si on n'a pas les adultes pour faire ça, et on ne les a pas, on ne peut pas recourir à ce genre de choses qui souvent fonctionnent pas si mal que ça.
Une autre solution,
Grégory, il nous appelle depuis le département du Rhône. Grégory, il est conseiller d'éducation.
Il est CPE. Voilà. Ah, bonjour Grégory.
Bonjour Roselyne, bonjour à vos invités.
Alors Grégory, votre solution, là êtes dans la pâte là. Vous.
Oui, on est en plein dedans, mais je serais tenté de vous dire la solution que nous on a mis en place au sein de notre établissement. Alors juste pour précision, nous on est un établissement privé. Mm-hmm. Mais bon, ça change pas plus de choses que cela. Ouais. Néanmoins,
vous avez
nous,
plus d'autonomie un petit peu quand même.
On a plus d'autonomie, mais la fameuse exclusion interne. Alors nous c'est une exclusion interne, internée peu importe, mais cette fameuse exclusion interne qu'on utilise. Nous, je trouve que c'est quand même, alors c'est pas forcément la solution miracle, mais ça évite notamment l'effet de décrochage, c'est-à-dire que l'élève est exclu par exemple 1, 2, 3 jours et vient donc au sein de notre établissement, les professeurs lui donnent du travail, alors s'il y a des interros, il fait les interros en même temps que les autres, sur les mêmes heures que les autres, simplement il est en salle d'études, il a des récréations décalées qui ne lui permettent pas d'être au contact de ses camarades, ce qui évite l'effet dont vous parliez également tout à l'heure, l'effet du héros, c'est-à-dire que j'ai été exclu 3 jours et je fais la fête parce que c'est moi et je suis là. Mmh. Et finalement, on s'aperçoit que cette exclusion interne, d'abord, elle permet souvent à l'élève de se reconcentrer sur son travail parce que, il a du boulot et il faut quand même qu'il le fasse. Et puis, quelque part, ça nous permet en même temps de garder ce contact avec l'élève. Et moi, ça me permet, parce que c'est peut-être un moment où je prends moi-même en charge l'élève, et ça me permet d'échanger avec lui. Et quand j'échange avec lui, ça me permet pas forcément tout le temps de trouver des solutions, parce qu'on n'est pas non plus magicien, mais ça permet déjà de garder ce lien, voire de l'augmenter, et ça évite déjà, ne serait-ce que l'effet de décrochage. Après, le problème d'exclusion dans les établissements, il vient aussi d'un problème extérieur, qui vient probablement des familles, qui vient de la société. Enfin bref, on pourrait, je pense, faire toute une émission là-dessus. Et puis, en termes de solutions également, ce qui est possible et ce qui est envisageable dans la responsabilisation des élèves, c'est qu'on peut leur donner la possibilité de devenir des tuteurs d'élèves en étage inférieur. Alors, on fait pas ça.
Ça existe dans l'échelle des sanctions. On connaît bien l'avertissement, oui. Le blâme, la responsabilisation, l'exclusion du cours, de la classe et de l'établissement. C'est codifié.
Oui, c'est codifié, mais par exemple, nous, dans l'établissement, les exclusions de cours, on les a quasiment, pour le dire, interdite, sauf cas de force majeure.
D'accord.
D'abord parce qu'on considère qu'un élève n'a rien à faire en dehors d'un cours. Qu'il ait oublié ses affaires, parce que bon, il y a en France une facilité d'exclure un élève qui est vraie, c'est-à-dire qu'un élève a pas ses affaires, on va l'exclure. Et ça, c'est dramatique, parce qu'un élève en difficulté en maths, s'il a pas son livre et vous l'excluez, il peut pas suivre le cours, ça sert à rien du tout, c'est stupide, pour même être très clair avec vous. Après, cette échelle des sanctions, elle est perfectible, mais je pense que de toute façon, l'exclusion, c'est une arme dont il faut se servir avec beaucoup de
subtilité, de précaution. Jean-Rémy Girard, Grégory vient de parler de la responsabilisation qui est le troisième échelon des sanctions, c'est-à-dire qu'on demande à l'élève fautif, puisqu'il a commis infraction, une faute, de s'impliquer de façon citoyenne dans l'école. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais ça, c'est très intéressant, mais ça doit être encadré par au minimum un adulte, et c'est en fait,
tout à fait,
c'est là-dessus que l'on se heurte, c'est-à-dire que la plupart des établissements sont déjà en manque, par exemple de surveillants.
Oui.
Là je parle du public, hein, pour le coup, où effectivement on a des difficultés ne serait-ce qu'à avoir des adultes disponibles.
Donc,
hein,
c'est
pour
un
ce genre
problème de moyens,
mais on a un problème de moyens humains et de formation humaine aussi, c'est-à-dire que aujourd'hui, la plupart des surveillants, ce sont des personnes, des étudiants qui sont pleins de bonne volonté, mais qui parfois se retrouvent aussi assez dépassés par ce qu'ils vivent, qui n'ont pas reçu de formation spécifique, voilà, et qui se retrouvent un peu jetés là-dedans. Et c'est compliqué, c'est pas un vrai métier, en fait, c'est pas un vrai métier à long terme. Donc on est avec des personnes qui sont au contact des élèves et qui ont parfois des difficultés. Ouais. Moi, je vous parle de... Là, on parlait des salles de permanence où les élèves sont surveillés pour pouvoir faire leur travail. On connaît des tas d'établissements dans lesquels on sait que la salle de permanence, c'est le bazar total. Voilà. Et on ne peut pas y travailler, en fait. Et ça, c'est terrible. Si on ne règle pas ces problèmes-là dans les établissements scolaires, effectivement, on se retrouve à avoir recours à des exclusions parce qu'en fait, on est incapable de gérer les problèmes à l'intérieur de l'établissement.
Mathias Millet, vous avez entendu nos protagonistes qui sont des spécialistes, enfin, qui sont des professionnels, l'un comme conseiller d'éducation, l'autre comme prof. Vous, en tant que sociologue, vous aussi, vous pensez que c'est une question de moyens, que c'est là qu'on va trouver les solutions?
Alors, déjà, je pense que ce qui est important à dire, c'est que une mauvaise manière, sans doute, de poser le problème, c'est de chercher des responsables, de dire c'est la faute des parents, c'est la faute de l'école ou des profs, ou c'est la faute même de l'élève. C'est-à-dire que je pense que
ça peut être quand même quelquefois de sa faute.
Oui,
mais dans l'immédiat des interactions, oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a affaire à des processus longs qui font que les gens en reviennent à l'exclusion. Et par rapport aux moyens, il faut bien voir que par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'inégalité, on a une école qui veut accueillir tout le monde et qui se donne pour mission de faire réussir tout le monde, mais qui ne se donne pas finalement les moyens du point de vue des manières d'enseigner, mais aussi du nombre de profs, des situations pédagogiques qui sont créées, de faire réussir tous les élèves qui sont pris en charge. Du coup, on met les enseignants aussi dans des situations qui souvent sont impossibles, avec des classes qui peuvent être très hétérogènes, des élèves qui sont très différents ou qui trimballent avec eux tout un tas de casseroles, et les enseignants sont très seuls par rapport à ça. D'où, sans doute, des fois, une tendance à réagir par l'exclusion qui ne résout rien sur le fond du problème, qui devrait, à mon avis, être envisagé aussi dans l'ordre de l'apprentissage. Beaucoup d'élèves sont en difficulté à cause des apprentissages. Et on a souvent une lecture purement disciplinaire du problème.
Mathias Millet, ben je retiens votre solution, ainsi que Grégory, et je remercie Jean-Rémy Girard d'avoir été avec nous.
Merci
en
à vous.
Fait, à travers cette question de l'exclusion, on n'y répondra pas de façon ponctuelle, mais sans doute en repensant l'école et en Exactement. Repensant le métier d'enseignant. Merci, merci à tous d'être intervenus au 32-16.
Et tout de suite, c'est vous qui faites l'actu, vous nous dites ce qui vous marque, ce qui vous touche avec Rémi Barret.
Moi, je suis dit, Rosie n'a pas parlé de ça.
RMC.
Ça pose un problème, en fait, votre positionnement.
Ça m'a fait réagir.
100% Bachelot.
Rosie n'a pas parlé de ça.
Je ne suis pas d'accord avec toi.
C'est vous qui faites l'actu.
Ça m'a pas parlé de ça.
C'est vous qui faites l'actu. Vous nous appelez au 32-16 pour nous dire ce qui vous fait réagir dans l'actualité du jour. Nous avons beau être le 14 août, il y a de l'actu. Bonjour Manon.
Salut Rémi, bonjour à tous. Et oui, c'est Draz. Draz, il a fait le 32-16. Il est cuisinier, il a 36 ans et il nous appelle de Seine-Saint-Denis.
Faut-il le présenter encore? C'est un habitué de l'émission, Draz. Bonjour Draz.
Bonjour Rémi, bonjour Manon.
Alors, qu'est-ce qui vous fait réagir dans l'actualité du jour, Draz?
Habitant à Aulnay-sous-Bois. Je suis un peu confronté aussi un peu au bazar du rodéo sauvage.
Exactement.
Et en fait, moi, je voudrais, on en a pas mal, il y a eu pas mal de discussions dernièrement. Je voulais simplement revenir sur des stéréotypes.
Il faut rappeler, Dra, je me permets de rappeler que c'est le maire de Viry-Châtillon dans l'Essonne, qui s'appelle Jean-Marie Villain, c'est le maire UDI de Viry-Châtillon, qui travaille à une proposition de loi anti-rodéo pour la fin de l'année avec d'autres maires du département. Et donc, il voudrait une loi qui empêche, bon, on va le dire, hein, Dra, souvent ce sont des jeunes qui ont des comportements très dangereux sur des scooters, des motos, qui font des rodéos sans casque, etc. Et évidemment, avec tous les dangers que ça entraîne.
Tout à fait. Alors pour moi, ça, c'est juste un coup de com' de la part du maire de Viry-Châtillon. Parce qu'il interdit de conduire un 50 cm cubé plus qu'à partir de 14 ans, déjà. Il interdit de conduire un deux roues sans casque, ça existe déjà, cette loi. Et il interdit de faire des acrobaties sur la voie publique, ça existe déjà, ces lois-là. Donc en fait, la proposition de loi, pour moi, c'est juste un coup de com'.
Mais justement, est-ce qu'il n'essaie pas d'interpeller tout le monde, à commencer par le préfet du département et le ministère de l'Intérieur sur le sujet? Parce que ce qu'il faut dire, Dra, très clairement, c'est que on peut dire que ça remonte à 2007 avec ce qui s'était passé à Villiers-le-Bel en 2007. Oui. Il faut s'en souvenir, deux adolescents qui étaient morts sur une mini moto lors d'une course poursuite avec la police, qui étaient décédés accidentellement. Ça avait entraîné plusieurs jours d'émeutes. J'ai regardé tout à l'heure, il y avait eu une centaine de policiers de blessés lors de ces émeutes. Et évidemment, aujourd'hui, les policiers hésitent à poursuivre ces jeunes lorsqu'ils constatent des infractions.
Alors justement, Rémi, c'est pour ça que moi je voulais intervenir. C'est parce que moi j'ai entendu sur RMC à l'antenne aujourd'hui deux choses qui m'ont un peu choqué. Un jeune intervenant qui a dit que il en faisait, il l'avait admis, et qui demandait au maire de sa ville de l'encadrer tout ça. Déjà d'une, ça c'est déjà une personne qui appelle, qui fait ce genre de bêtises sur la voie publique et qui appelle pour dire moi je le fais. Je trouve ça complètement, enfin, c'était complètement aberrant. Le discours qu'il tenait était complètement aberrant. Tout de suite après, un autre intervenant est intervenu sur RMC, qui était un policier, un agent de la paix, qui disait qu'il n'osait pas les arrêter parce qu'après, il va y avoir des émeutes, ou alors après, c'était des véhicules volés, que les gens mettaient le feu pour qu'ensuite la police intervienne et qu'ils soient caillassés. Tout ça, pour moi, habitant à Aulnay, c'est des stéréotypes. Les petits jeunes en quad, en deux roues, même en mini deux roues, qui font des houlings devant le centre commercial de Beau-Sevran, avec la police nationale et municipale qui sont juste en face. La police bouge pas, c'est vrai. Simplement, ce qu'on a oublié de dire, c'est que ces gens-là, s'ils font ça sur la voie publique, croyez-moi, dans le quartier, dans la cité, où on croit que ces gens viennent, les trois quarts du temps, ils le font pas. Croyez-moi qu'ils le font pas. Il y a encore des anciens, il y a encore de ce qu'on appelait à l'époque des grands frères, des gens comme ça, c'est eux qui vont voir ces gamins et qui leur disent d'arrêter. Ça, par contre, ces jeunes-là, on n'en parle pas. Il y a eu des accidents qui n'ont même pas été médiatisés. Il suffit que oui, comme vous avez rappelé l'histoire de Villiers-le-Bel, qui a été médiatisée, mais il n'y a pas eu que cela, et il y en a plein d'autres qui n'ont pas été médiatisés, et on oublie de dire que c'est aussi un effort que nous devons faire en tant qu'anciens des quartiers ou des cités, et beaucoup de gens, beaucoup de mères, beaucoup de pères, de frères, de grands frères, vont les voir et leur disent d'arrêter.
Ah mais est-ce que vous-même, vous êtes déjà allé voir des jeunes qui avaient ce type de comportement pour leur en parler?
Je suis déjà intervenu.
Et est-ce qu'ils vous écoutent?
Moi, ça a été simple. Enfin, déjà, vu que je suis un ancien, je suis un peu connu. C'est vrai que c'est très fermé hein, comme communauté. Mais
un ancien, vous avez 36 ans, c'est ça?
Oui.
Mais pour eux, vous êtes un ancien.
Parce que c'est des gamins, faut pas croire. C'est pas des gamins de 17, 18 ans. C'est des gamins de 15, 14, 15 ans qui le font. Donc nous, on connaît toute leur famille. Moi, la fois, c'était un quad, un gamin en quad qui avait même pas 14 ans. Je me suis mis devant lui, il a pilé, j'ai pris les clés du quad. Tout simplement.
Mais Dra, voilà. Ça peut pas être une solution à long terme. C'est quoi la solution à long terme pour arrêter tout ça?
La solution à long terme, moi j'ai la chance à Aulnay, on a la chance d'avoir un maire, on va dire, qui sort un peu, qui montre un peu les pectoraux. Pour certaines choses, c'est juste d'avoir des maires qui disent à leur police municipale, stop. Maintenant, vous me les arrêtez. Vous arrêtez de vous faire narguer devant les centres commerciaux ou ailleurs. Maintenant, vous me les arrêtez tous, quitte à faire une poursuite. Il y aura une poursuite. C'est illégal de ne pas avoir de casque. C'est illégal de mettre la vie d'autrui en danger sur la voie publique. En France, on fait respecter la loi. C'est tout.
Bah, c'est un peu ce que veut faire aussi Jean-Marie Villain, le maire de Viry-Châtillon, là, qui propose cette loi anti-rodéo.
Oui, mais cette loi, il faut comprendre, Rémi, que cette loi, c'est un coup de com'. Il y a déjà des lois. Elles sont déjà là, les lois. C'est qu'elles ne sont pas appliquées. Tout simplement, on va dire, on achète la paix sociale. C'est tout. Et cette paix sociale, ça fait des années qu'on l'entend parler. Maintenant, stop. soit on respecte la loi, soit on la respecte pas. Mmh. C'est tout. Après, il y a un retour de bâton. Moi, je viens d'une époque où, oui, c'est vrai, on a tous fait des bêtises de jeunesse, des erreurs de jeunesse. J'en ai fait, j'étais pas le dernier. Simplement, il m'est arrivé de me faire arrêter, des fois oui, des fois non. Il faut accepter le jeu aussi. Donc ces gamins-là, le problème qu'ils ont, c'est que simplement, ils n'ont aucun repère là où ils sont dans leur quartier. Mmh. Le seul repère qu'ils ont, c'est ce qu'ils voient au jour d'aujourd'hui à la télé. Et c'est bête, mais c'est un cercle vicieux. On le voit, on le fait. Ah, on me voit. Eh ben, je vais le refaire, et ainsi de suite. Mmh. Donc maintenant, ce qu'il faudrait peut-être montrer à la télé, c'est des gamins ouais, qui sont tout simplement arrêtés. C'est tout. Voilà ce qu'on risque quand on fait ça. Et peut-être avoir des mesures exemplaires, parce que nous, on dépend du tribunal de Bobigny. Quand vous voyez des gamins qui cassent, qui s'amusent à faire n'importe quoi, qui sont pris le matin par la police, mis en garde à vue le matin par la police, différés immédiatement au TGI de Bobigny, et qui sortent le soir même, et qu'on les revoit au kebab et qu'on leur dit que tu t'es pas fait arrêter par la police ce matin.
Ouais, en tout cas, de son côté, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, affirme qu'il n'y a pas de consigne donnée aux policiers pour ne pas intervenir.
Alors ça c'est si, il y en a.
Attendez, parce qu'il y a Gabriel également qui a fait le 32-16, alors il veut réagir sur un autre sujet, il pourra réagir tout à l'heure, mais en tant que fonctionnaire de police, on va lui demander son avis. Bonjour Gabriel.
D'accord. Bonjour, c'est faux ce que dit le ministre, c'est faux, puisqu'on a des consignes.
Vous avez des consignes, Gabriel?
Bien sûr.
Mais elles disent quoi exactement vos consignes? Ça se passe comment? C'est des consignes, j'imagine, orales?
En fait, c'est nos salles de commandement, et quand on annonce des chasses ou des prises en charge, je vais pas te parler de chasse, mais on parle de prise en charge, quand c'est comme ça, on a des consignes strictes de stopper.
Pour parler correctement, ça veut dire que avant de partir en patrouille?
Ah non, c'est pas, non. On le sait, c'est quand nous on l'annonce, si vous voulez, on part pas en patrouille en disant qu'on va partir en chasse. Mais quand le problème survient sur des rodéos sauvages, quand nous on annonce la prise en charge, dans la foulée, vous pouvez être sûr que votre salle de commandement, elle vous dit de stopper la chasse, et encore plus si on a relevé l'immatriculation. Donc on nous demande en fait juste de relever l'immatriculation, d'ouvrir une procédure.
Et stop,
et ça s'arrête là. Et on fait pas de chasse parce que les risques, malheureusement, les risques pour les autres usagers sont trop grands. Et au-delà de ça, si le chauffeur se tue, on fait comment? Ça va être notre responsabilité, puisque c'est nous qui avons lancé au final la prise en charge.
Et si vous avez relevé la plaque d'immatriculation, il y a des suites après?
En fait, normalement, comme tous les engins maintenant sont censés être immatriculés, faut-il encore que ce soit une bonne immatriculation et pas une fausse immatriculation? Mais nous, on ouvre une procédure, on va identifier donc le propriétaire, puisqu'il y a une immatriculation, il y a un propriétaire. Et après, vous avez une procédure judiciaire en préliminaire pour mise en danger volontaire de la vie d'autrui, puis les autres infractions qu'on peut éventuellement relever lors de la prise en charge. Et ensuite, le propriétaire est convoqué, et après, voilà, c'est à qui appartient le scooter, ainsi de suite. Sauf qu'après, c'est la loi du silence, vous savez jamais dans les faits réellement qui était sur le scooter. Ou alors, sinon, on connaît la personne qui manque le scooter et qu'on l'a identifié à ce moment-là, oui, on est formel. Mais là encore, c'est toujours pareil, c'est la parole du policier contre la parole du jeune qui va être mis en cause, entre guillemets.
Bon, en tout cas,
on a des consignes. On a des consignes de ne pas poursuivre.
En tout cas, Draz, on vient de l'entendre, là on a un policier qui confirme ce que vous dites, ce que vous vivez.
Moi, si je peux me permettre une chose, ouais, si Gabriel écoute toujours, moi j'ai une solution, pour ce genre de délit, ce genre de problème qu'il y a dans les quartiers aujourd'hui. Des fois, le progrès, il n'est pas bon pour tout le monde. Moi, je pense qu'il faut surtout remettre la police de proximité. Un petit commissariat dans le quartier. Croyez-moi, à l'époque, ils étaient respectés. On se connaissait tous. Et souvent, c'était des voisins qui étaient ilotiers ou qui étaient agents de police. Ça, c'est ce qui manque. Alors comme on dit, moi, ça m'est arrivé souvent de voir de la police me dire « on n'est pas là pour faire du social ». Je suis désolé, mais si. Au jour d'aujourd'hui, dans ces quartiers, il faut en faire du social, puisqu'il n'y a plus personne qui en fait. Et à l'époque, croyez-moi, à l'époque, moi je me rappelle que je jouais au foot, et ben l'entraîneur de foot, il était, à l'époque c'était inspecteur, maintenant c'est lieutenant, mais il était inspecteur de police, et croyez-moi, il était respecté dans tout le quartier.
Ouais, on a bien compris, en tout cas, merci Draz de nous avoir appelé sur RMC au 32-16, on a bien compris qu'il fallait recourir au dialogue, c'est ce que vous pointez du doigt, ce manque de dialogue, il faut aller voir les jeunes et parler avec eux, leur faire comprendre les choses.
Et puis Gabriel, son vrai sujet, c'était... Ouais. Il reste avec nous parce que il voulait revenir sur Paris Saint-Germain et Neymar, c'est ça?
C'est ça.
3-0 hier à Guingamp. Un but de Neymar et une passe décisive, c'est ça, hein? Je me trompe pas,
ouais,
Gabriel.
C'est ça. Alors, non, c'est exactement ça.
Convaincu?
Bon, moi j'étais déjà convaincu avant même qu'il signe, de toute façon.
Il a signé, maintenant il marque.
C'est concret. Voilà, c'est ça, c'est concret, mais il n'y a pas vraiment de surprise avec un joueur de cette qualité. Il a fait, en plus, il est pas en retard sur sa préparation, puisqu'il avait entamé la préparation avec le Barça.
Donc il était clairement prêt à jouer. Après, voilà, c'est une exposition nouvelle pour la L1. Je parle pas que du PSG, mais pour globalement toute la Ligue 1, puisque là à Guingamp, il y avait des médias d'un peu partout sur la planète, portugais, brésiliens, globalement d'Amérique du Sud, ce qui n'existait pas avant. Le stade, il était plein, donc c'est des retombées pour tous les clubs. L'exposition de la Ligue 1 à l'étranger, bah, ça va faire que tous les clubs vont s'y retrouver aussi sur les droits TV, parce qu'il y aura plus de droits TV forcément. Donc non, c'est de toute façon, c'est globalement qu'une bonne chose pour tout le monde, pour Paris, tout le monde est gagnant. Que ça soit même les adversaires de Paris, sur le à moyen terme, ils vont être gagnants.
Il y a Manon qui veut réagir.
Oui, est-ce que vous n'avez pas peur que le soufflet retombe un petit peu, parce que là, évidemment, c'est l'effervescence, c'est le début, c'était son premier match, son premier but, mais dans trois mois, est-ce qu'il y aura toujours autant d'engouement?
S'il marque des buts à chaque match.
Je vais vous retourner la question, Manon. Est-ce qu'il y a un engouement qui affaiblit pour Cristiano Ronaldo et Messi? Non, on continue pourtant à parler d'eux, et même quand ils sont moins bien, on parle toujours d'eux parce que c'est des joueurs hors normes. Ça fait partie, c'est comme Zidane. Même de l'autre côté des Pyrénées, alors même qu'il n'était pas entraîneur, on continue à parler de Zidane. C'est des joueurs qui ont des auras comme ça, qui voilà. L'engouement toute l'année, les stades seront pleins pour voir Neymar à chaque fois que Paris se déplacera.
Moi, je me pose une question, Gabriel, et je vous la pose d'ailleurs. Je ne vais pas me priver. C'est bien parce qu'on sait que le PSG a de l'argent avec le Qatar, et donc peut se payer des joueurs de type Neymar, mais est-ce que justement, est-ce qu'il ne va pas y avoir un déséquilibre? Parce qu'au bout d'un moment, les autres équipes de Ligue 1 peuvent pas suivre ou n'arriveront pas à suivre financièrement, je parle. Et on va avoir un super PSG et puis d'autres clubs.
Mais ça fait déjà 4 ans. Enfin, ouais, ça fait déjà 4 ans que c'est
non,
comme ça.
Regardez, cette année, la dernière saison, on a eu Monaco, on a eu Nice.
Oui, mais c'est un accident. Enfin, je veux dire, Monaco.
Vous croyez
qu'on gagne? C'est un accident, Gabriel.
Attention, parce que Manon, elle va vraiment pas être contente, Manon, la Nice.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que non, Nice fait du très bon travail depuis. Trois ans. Oui, mais je dis pas que Monaco ne fait pas du bon travail, c'est pas ça. C'est que l'année dernière, ce qui s'est passé, sur le papier, c'est Paris qui devait être champion. C'est un accident industriel. Paris, sur une mauvaise saison, finit deuxième. Après, c'est jamais joué. Il faut jouer les matchs et je dis pas le contraire. Maintenant, il y aura pas de super PSG parce que déjà, on voit des recrutements. Même sur d'autres clubs en L1, justement parce que le PSG est attractif et fait venir des joueurs en L1, on voit des joueurs comme Snyder qui reviennent, Balotelli qui est resté à Nice, Luis Gustavo qui débarque à l'OM. On parle quand même d'un joueur qui a gagné la Ligue des Champions.
Vous pensez que le PSG va entraîner les autres clubs et qu'on va monter en niveau, on va monter d'un cran?
Ouais, je pense. Et c'est très bien pour tout le monde. Je reste persuadé que c'est une bonne chose pour tout le monde. Et je pense que le PSG reste une locomotive et que pour tous les clubs, c'est aussi essayer d'accrocher, qu'on changer aussi ses façons de faire, sa façon de travailler pour avoir du recrutement plus judicieux. Parce que pendant très longtemps, on a acheté très cher ou on a payé très cher de jeunes joueurs qui au final n'avaient pas forcément un impact intéressant. Et là, on voit des vrais recrutements intelligents. Avec des équipes qui sont de mieux en mieux.
Bien compris, Gabriel. Merci de nous avoir appelé au 32-16 sur RMC. On a parlé foot et comme ça tombe bien, Arnaud Souk est avec nous. Salut Arnaud. Et c'est intégral foot.
Bah évidemment.
J'ai l'impression parfois que tout est pensé, tout est travaillé.
Oui. Et tu vas continuer à parler de Neymar.
Ça c'est formidable. Tiens, j'ai un petit quiz pour vous maintenant. RMI, si je vous dis 128, vous savez ce que c'est 128?
Non.
C'est le nombre de ballons qu'il a touché hier, Neymar.
C'est beaucoup.
Incroyable. C'est plus qu'un milieu défensif, c'est plus que Verratti et Thiago Motta dans les grands matchs du
C'est donné.
C'est incroyable.
Mais
est-ce
qu'il s'est particulièrement donné hier soir parce que c'était son premier match avec le PSG ou est-ce qu'il est tout le temps comme ça?
On verra, justement, on va en parler avec vous au 32-16 sur le hashtag RMC Live. Coach Courbis débarque également dans un instant. On va tout vous expliquer, c'est promis. L'intégral foot, à tout de suite.